Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Le continent africain a vu sa transition énergétique progresser à des rythmes variés en 2024. Pour le cas du Maroc, le Royaume a gravi les échelons du Climate Change Performance Index 2025 en se positionnant à la 8e place mondiale. Une place donc obtenue grâce à des investissements majeurs dans des projets solaires et éoliens tels que le complexe Nour Ouarzazat et le parc éolien de Tarfaya. Aujourd'hui, le Royaume ambitionne de devenir un hub régional pour l'hydrogène vert avec des projets visant une capacité de production de 2 gigawatts d'ici 2027. Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous recevons notre monsieur énergie, Amine Benouna. Bonjour encore à vous, monsieur Benouna. Toujours un plaisir aussi de vous recevoir dans notre émission Durabilité.
Bonjour et merci à Babacar pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, M. Benouna, quels sont aujourd'hui les principaux projets en cours au Maroc pour atteindre l'objectif des 52% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et comment contribue-t-il à la durabilité énergétique en 2025?
Bon, on va commencer par dire qu'est-ce qui est pas terrible et puis après on verra toutes les bonnes nouvelles et Dieu sait qu'il y en a.
Tout à
bon,
fait.
Le talon d'Achille de l'électricité renouvelable au Maroc, ça reste la partie solaire qui apparemment est enlisée dans un imbroglio administratif. Et il faut bien dire que les responsables ne nous gratifient pas d'informations claires sur les raisons de ce retard de Nord-Midelt notamment. Bien, lorsqu'en 2022, je disais que parmi les ennemis du Maroc figuraient la montre et le calendrier, je prenais pour exemple le retard de la mise en service de la SEP de Abdelmoumen et de l'éolien. Mais heureusement, la piqûre de la cessation, comme quoi que toute mauvaise chose a un bon côté, la piqûre de la cessation des livraisons de gaz algérien via le gazoduc transmaghrébin a fait son effet favorable et le déploiement de l'éolien a été très fortement accéléré depuis. Alors ça a donné quoi? Bref, rappel, le plan marocain intégré d'énergie éolienne, qui inclut 1050 MW de 6 parcs éoliens, a été concédé par appel d'offres en bloc pour atteindre une taille critique qui a permis d'améliorer le taux d'intégration locale, notamment de faire fabriquer les pales au Maroc. D'ailleurs, deux usines, la première et la deuxième, et la mise en service progressive sur les deux années 2023 et 2024. Je suis obligé de parler des deux années parce qu'il y a certains parcs éoliens qui ont été mis en service progressivement sur les deux années. Et venez ajouter 4 grands parcs éoliens qui ont totalisé à eux seuls 868 MW, ce qui n'est pas peu. Alors bien sûr, au nord-est de Bouche d'Or, 296 MW, d'électricité concessionnelle, au nord-est de Saouira, 270 MW, à Jebel Lahlid, à l'ouest de Fnédak, 100 MW concessionnels aussi, et au sud de Bouche d'Or, 202 MW dont vous avez parlé, c'est le parc de Raftissat qui a mis en route sa deuxième tranche dans la deuxième partie de 2023. Donc, grâce à tous ces nouveaux parcs, il y a eu 9597 GW d'électricité, c'est-à-dire presque 10 000 GW d'électricité éolienne qui ont été générées en 2024. Rien que ça, ça a représenté 21,3% de la production nette locale. Et malgré la très mauvaise production hydroélectrique, puisqu'on n'a fait que près de 350 gigawattheures, c'est-à-dire 10 fois moins que 2010, la part de l'électricité renouvelable et donc l'indépendance électrique est montée à 25,9%, ce qui n'a été jamais atteint depuis plus de 40 ans. L'indice de dépendance énergétique, mais cette fois-ci l'indice de dépendance énergétique totale, hein, qui inclut le gasoil des voitures, qui inclut le propane, bref, le gaz butane, tout et le reste, est monté à presque 13% et n'a jamais été égalé depuis 28 ans. Et petite nouvelle toute fraîche, toute récente, c'est que les échanges d'électricité avec l'Espagne ont réussi à montrer un léger solde exportateur au mois de décembre 2024, ce qui ne s'est pas produit depuis mars 2022. Ça fait quand même un beau paquet de bonnes nouvelles. On est retombé en solde exportateur positif. Bon, mais c'est vrai que c'est au mois de décembre, et se trouve qu'au mois de décembre, le Maroc consomme moins d'électricité parce que nous avons besoin beaucoup d'électricité au mois de juillet, alors que l'Espagne, c'est plutôt pour le chauffage. Et donc, voilà, pour une fois, le solde est favorable au Maroc depuis maintenant presque deux ans et demi. Bien, alors pour ce qui est de 2025 et au-delà, puisque votre question s'y intéresse aussi.
Tout à fait.
Alors, pour compléter le PMIE dont on vient de parler, le plan marocain intégré d'énergie éolienne, il reste encore deux parcs qui vont être mis en service entre 2025 et 2026. Je ne suis pas dans le secret des lieux. Il y en a notamment à Tiskrad, à côté de Tarfaya, pour 100 MW. Et il y en a à Sundok, à côté de Tanger, pour 70 MW. C'est de l'électricité concessionnelle, c'est-à-dire c'est l'électricité qui va être vendue directement à l'ONE. Non, pas dans le cadre de la loi des énergies renouvelables, dans lesquelles les développeurs cherchent leurs propres clients pour vendre leur électricité. Alors, avant 2030, on a encore 912 autres mégawatts de parcs éoliens qui sont encore prévus pour produire dans le cadre, cette fois-ci, de la loi sur les énergies renouvelables 1309. Alors, il y en a un à Tlatrams, toujours dans le nord. Il y en a un de 60 MW à Dakhla, dont la presse parle régulièrement. Il y en a un de prévu de 135 MW à Jbel Haouch, à côté de Dar Shaoui, c'est dans l'ouest de Tétouan et au sud-est de Tanger. Et il y a un autre parc à Dakhla de 36 MW et un grand parc éolien au nord de Dakhla, Bir En Zarem, pour 201 MW et à Zeytoun à Tétouan pour 150 MW. Et pour terminer, j'espère que je ne vous ennuie pas avec une telle liste.
Non, allez-y.
80 MW à Guelmim, à Afarkat exactement, ce qui complète les 912 MW prévus.
Et
alors, quand on compte tout ça, maintenant pour revenir à l'objectif des fameux 52% de capacité de production électrique, bon, il est certain que l'éolien va permettre de réaliser les objectifs. Et ça sera surtout grâce à l'éolien et malheureusement pas à cause du solaire qui est en train de prendre du retard.
Prendre du retard, mais également par rapport à ça, comment les partenariats internationaux, notamment pour l'hydrogène vert, renforcent-ils les capacités énergétiques du Maroc et leur impact sur le continent africain ?
Alors, volontairement, je n'ai pas voulu parler dans ma réponse à la première question, je n'ai pas voulu parler de tout ce qui est, on va dire, autoproduction, autoproduction et notamment projet d'hydrogène vert. Parce que, d'une part, la première phase de production d'hydrogène vert, ce ne sera pas de l'hydrogène vert destiné aux usages énergétiques, mais ce sera de l'hydrogène vert destiné aux usages industriels de l'OCP. Donc, c'est un produit qui va être utilisé, consommé par la production des fertilisants. Et donc, dans l'immédiat, il est prévu plusieurs gigawatts, notamment, je crois que le total est de 5 gigawatts, pour pouvoir produire le million de tonnes d'ammoniac destiné à l'Office chérifien des phosphates par le biais de la production d'hydrogène vert. Alors, cet hydrogène vert va permettre au Maroc de doubler pratiquement la capacité de production d'hydrogène vert du monde de 2022. Ce qui fera qu'à terme, l'hydrogène vert aura un prix qui va baisser dans le temps et on pourra à ce moment-là effectivement en faire des usages énergétiques. Mais pour l'instant, je préfère ne pas trop sombrer dans
ça.
J'aime pas trop parler des choses qui sont qui sont sexy, qui sont à la mode et tout ça. Allez, on prononce le mot hydrogène vert, ça excite tout le monde. Alors l'hydrogène vert aujourd'hui, c'est un usage industriel essentiellement, et on verra lorsque son prix aura baissé suffisamment s'il pourra être utilisé dans les usages énergétiques.
Et par rapport également à cette même dynamique, vous en parliez tout à l'heure, vous l'avez juste brossé plus tôt, comment les infrastructures donc électriques africaines évoluent-elles pour intégrer davantage d'énergie renouvelable tout en répondant à la demande croissante en électricité, selon vous ?
Alors, bon, d'abord, l'Afrique, c'est un très, très grand continent. C'est énorme. Et en tant que Marocain, il faut qu'on garde un peu la tête bien vissée sur nos épaules. Mmh. Et savoir que pour nous, l'Afrique, dans l'immédiat, ce sont les voisins, notamment la Mauritanie, le Sénégal, etc., etc., tous les pays du Sahel et les pays concernés par le projet de gazoduc nigérian. Ça, c'est pour le Maroc, ce qu'on entend par Afrique, c'est ça aujourd'hui. Et effectivement, le modèle marocain peut être intéressant pour la plupart de ces pays parce que nous sommes finalement dans la même situation que ces pays de certains points de vue. C'est-à-dire que nous n'avons pas de réserve de devises à l'étranger et nous n'avons pas un carnet de chèques bien garni. Et que la façon marocaine de faire avec notamment des partenariats publics-privés et de la création d'un environnement des affaires favorable à l'investissement privé peut être utile à tous nos amis du Sud. Et je dis nos amis du Sud, ça commence à la Mauritanie et ça se termine au Nigeria. Déjà, dans l'immédiat, l'électricité, l'interconnexion vers le Sud, elle est déjà à Dakhla. Et les 400 kilomètres qui manquent pour atteindre Ouagadougou sont en cours de réalisation. Et ça sera le début des interconnexions avec les voisins et d'échanges d'électricité. Nous allons non plus échanger de l'électricité avec l'Espagne seule, comme c'est le cas aujourd'hui depuis qu'on ne fait plus avec l'Algérie. Mmh. Mais nous échangerons aussi de l'électricité avec la Mauritanie, ainsi de suite. Donc il va y avoir des interconnexions gazières avec l'Afrique de l'Ouest et il va y avoir des interconnexions, inshallah, électriques, inshallah, qui permettront d'échanger de l'électricité, mais aussi de créer un développement local par la production locale d'électricité renouvelable dans tous ces pays.
Et très rapidement également, vous avez parlé aujourd'hui d'orientation et de stratégie par rapport à ça, mais il faut également noter l'aspect financier. Et selon vous, M. Benouna, quel mécanisme de financement et d'investissement serait nécessaire pour accélérer cette transition énergétique en Afrique, tout en respectant bien sûr les engagements climatiques ?
Je crois que j'ai un peu parler de ça mais très brièvement. Mmh. En fait, le modèle de PPP adopté par le Maroc est relativement simple. Il consiste à créer un environnement des affaires favorable à l'investissement privé et puis d'appeler le privé à financer finalement la transition énergétique en mettant en place les équipements nécessaires à cet effet aux frais, bien sûr, des opérateurs privés. Lesquels se remboursent en vendant de l'électricité sur des contrats de 20 ans, 25 ans. Alors les maîtres mots de tout ça, c'est quoi ? C'est des acronymes anglo-saxons, c'est PPA, donc pour Purchase Power Agreement, c'est-à-dire des contrats d'achat d'électricité à long terme. C'est les contrats en BOOT, ce qu'on appelle BOOT, c'est-à-dire Build, Own, Operate, Transfer, c'est-à-dire qui consiste à faire construire, exploiter, posséder et transférer les équipements au terme des contrats. Et donc voilà, mais il faut que l'environnement soit favorable à l'investissement parce que les pays où il y a trop de vagues, les investisseurs privés n'aiment pas trop y placer leurs billes, surtout que là, nous parlons de termes qui sont de 20 ans ou de 25 ans.
De 20 ans et 25 ans également, nous étions avec M. Amine Benouna, expert donc en tout ce qui est énergie, notamment aujourd'hui, nous avons abordé avec lui cette question de l'énergie avec les perspectives de l'année 2025, tout en faisant bien évidemment une petite rétrospective de ce qui nous a été présenté durant l'année 2024. Merci encore à vous, Amine Benouna.
Merci à Babacar.
Merci encore à vous aussi, chers amis auditeurs, pour la durabilité de cette confiance renouvelée à votre émission Durabilité. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au plaisir.